Bonjour à tous, c'était une belle idée, regrouper équitablement les agriculteurs au sein de coopératives. Mais on va voir que ce système a parfois dérivé, filialisation, concentration, gestion opaque. Vous allez nous expliquer ça, Anne-Laure Choin, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Elle nous fera part des critiques que les auditeurs ont pu formuler sur certaines de nos enquêtes. Enfin, nous serons en duplex de Lyon avec Nicolas Barrican du site d'investigation Médiacité. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur les coulisses de la guerre que se livrent désormais le maire de Lyon, Gérard Collomb, et son ex-dauphin, David Kimmelfeld.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
C'est quoi une COP agricole ?
C'est une entreprise créée par des agriculteurs qui leur appartient et qu'ils dirigent eux-mêmes.
Et comment ça fonctionne, une coopérative agricole ?
C'est une entreprise où la personne prime sur le capital et qui pratique la démocratie.
Voilà, c'était un extrait d'une pub sur les coopératives agricoles que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube. Ce système de regroupement ne présenterait, on l'entend, que des avantages. Il serait vertueux, il profiterait à tous. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, on tombe d'assez haut, Anne-Laure Choin. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, mais avant ça, dites-nous, quand on parle de coopératives agricoles, on parle de quoi ?
Alors ça représente près de 40% de notre secteur agroalimentaire, c'est donc très important. Vous avez tous certainement déjà acheté une marque détenue par l'une de ces coopératives, le sucre Béguincé par exemple, les yaourts Yoplait, le lait Candia, la baguette Campaillette ou encore le jambon Brocéliande. Trois quarts des agriculteurs y adhèrent et elles emploient près de 180 000 salariés.
Ouais, donc elles sont très importantes et ce qu'on entendait dans la pub, Anne-Laure, c'est que ce regroupement de coopérateurs, il s'appuie sur des valeurs.
Oui, la coopérative, c'est censé être une entreprise qui appartient aux agriculteurs collectivement et dont ils gèrent eux-mêmes la stratégie regroupée sur le principe un homme, une voix. Et puisqu'elles n'avaient pas les mêmes armes que des sociétés commerciales, ces coopératives, elles ont été dispensées de payer l'impôt sur les sociétés.
Ah oui, pas d'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas négligeable. Sauf qu'entre les belles idées et la réalité, il y a parfois un gouffre.
Et ce gouffre, on en a eu un exemple récent qui a beaucoup fait parler dans le milieu agricole, c'est celui de la coopérative sucrière Tereos.
Alors, faut expliquer, Tereos, c'est quoi ?
C'est la deuxième coopérative agricole française, un chiffre d'affaires estimé à près de 4,5 milliards d'euros. Elle produit du sucre, le sucre qui connaît en ce moment une crise. La coopérative s'est retrouvée en difficulté. Certains administrateurs de Tereos ont demandé des comptes à la direction de la coopérative et ils l'ont payé cher, nous dit Thibaut Guillemin, l'avocat de ces agriculteurs.
Mes clients ont à un moment donné lancé l'alerte. Lorsqu'ils ont compris qu'on leur demandait simplement de siéger et d'approuver ce qu'il y avait à approuver sans trop poser de questions, ils se sont décidés à ouvrir ce débat de manière publique et ça a conduit à leur exclusion. Ça a conduit à leur exclusion, qui était une mesure extrêmement violente prise par le conseil de surveillance. Un agriculteur se faire exclure d'une coopérative à laquelle il livre l'intégralité de sa production, c'est simplement l'arrêt de mort de son exploitation.
Oui, l'arrêt de mort, il ne mâche pas ses mots, cet avocat. Mais sur le fond, Anne-Laure, est-ce qu'il y a vraiment un souci dans la gestion de cette coopérative ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la coopérative affiche un gros déficit. Et une autre personne qui s'est intéressée au compte de Tereos, c'est un agriculteur et conseiller départemental d'Indre-et-Loire, Vincent Louot, lui aussi a découvert des choses surprenantes.
Quand on m'a demandé de m'intéresser au cas Tereos, je ne croyais pas ouvrir une structure financière aussi complexe avec une centaine de filiales, avec une structuration qui passe par la Belgique et le Brésil. Et c'est vrai qu'on ne voit pas dans les comptes apparaître depuis les trois dernières années de remontée de dividendes vers la coopérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filiales ont des réserves financières qui sont de l'ordre de 700-800 millions d'euros minimum. Et cet argent a été prêté pour un développement à l'étranger. Dans les comptes des filiales, il n'y a pas d'argent qui remonte vers la coopérative.
Pas d'argent qui remonte, mais ça se fait comment ça ?
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune transparence et Tereos n'a pas souhaité répondre à mes sollicitations. Mais c'est aussi le cas pour certaines des plus grosses coopératives agricoles françaises qui détiennent désormais des dizaines et des dizaines de filiales à l'étranger. Or, ce qui se passe dans ces filiales, les agriculteurs ont souvent du mal à le savoir. C'est ce que constate aussi Chantal Chomel qui a longtemps été fiscalisée économiste et juriste pour COP de France, l'organe représentatif des coopératives agricoles françaises.
Évidemment, dans les filiales, il y a un peu une boîte noire, hein, je dirais mécaniquement, parce que la gestion de la filiale, elle a sa propre logique, et ce qui va remonter à la COP, ben, il y a plus ou moins de transparence.
Ouais, plus ou moins, c'est un euphémisme. Hein. Mais comment est-ce qu'on est passé, Anne-Laure, d'un système transparent, finalement, à ce système de filialisation à l'étranger ?
Eh bien, ces coopératives ont dû s'adapter au développement de l'agriculture française en général, donc à sa mondialisation. Pour rester dans la course, il a fallu exporter les productions, transformer de plus en plus les produits. Et pour ça, on a créé des filiales de droit commercial à l'étranger. Pierre Louault est agriculteur et sénateur UDI d'Indre-et-Loire et il trouve ce développement assez logique.
Les coopératives ne faisait pas le poids par rapport aux gros négociants privés. Donc il y a eu une restructuration qui était plutôt logique à un moment. Mais en même temps, ils ont pris un peu une boulimie de développement. Ils voulaient devenir les premiers en matière de la coopérative dans le pays. Après, elles se sont dit, on a aussi des concurrents. Quand les concurrents privés sont à vendre, on rachète. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent.
Donc on a beaucoup investi et certaines coopératives se sont transformées en véritables géants de l'agroalimentaire.
Oui, avec des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards d'euros. C'est le cas de Tereos, on en parlait, mais aussi de Sodial, qui détient de nombreuses marques de produits laitiers, dont Yoplait. Il y a encore la Coperle, qui élève, abat et transforme des porcs bretons, ou bien encore la plus grosse coopérative française, Invivo, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle détient notamment les magasins Jardiland. Bref, peu à peu, certains de ces groupes sont devenus des mastodontes, explique Xavier Hollands, docteur en sciences de gestion.
Si on devait faire un comparatif, à l'heure actuelle, suivant les années, on aurait les trois ou quatre plus grandes coopératives françaises intégreraient le CAC 40. Donc les 40 plus grandes entreprises cotées sur le marché parisien. Grosso modo, quand on prend les 50 premières coopératives françaises, elle pèse quasiment 80% des coopératives, de l'ensemble des 2400 coopératives. Donc, il y a aussi un phénomène de concentration.
Oui, une concentration qui s'est opérée avec une forme de bienveillance, on peut dire, des autorités.
Oui, ce sont effectivement les autorités qui ont permis aux coopératives de créer des filiales dans les années 90 avec plusieurs lois sur la filialisation donc des coops. À l'époque, on jugeait nécessaire de leur donner les moyens de se développer. Mais dans le même temps, on ne s'est pas doté de moyens de contrôle. On a donc un système qui fonctionne sans gendarmes, et ce depuis près de 30 ans, explique encore la fiscaliste Chantal Chomel.
Le législateur n'a pas accompagné cette évolution. L'accompagnement juridique du groupe coopératif, il est arrivé avec la loi de 2014 qui a introduit une obligation de faire un compte-rendu de l'activité des filiales et puis renforcé par la récente ordonnance du 29 avril qui demande de détailler la liste de ses filiales et de donner les rapports des commissaires aux comptes de ces différentes filiales. Donc ça, c'est récent et c'est même pas encore rentré en vigueur.
Ah oui, donc on n'est toujours pas obligé de rendre des comptes, ni aux autorités, ni aux agriculteurs ?
Non, et ce qui rajoute à leur frustration à ces agriculteurs, c'est qu'ils ont parfois l'impression de ne jamais voir la couleur de l'argent qu'ils ont contribué à créer. Écoutez ce qu'en dit Véronique Le Floch, elle est éleveuse laitière, membre du syndicat Coordination Rurale, et elle a été quelque temps coopératrice pour Sodial.
Regardez Yoplait, avec 19 000 yaourts vendus à la minute. Ça fait 4000 euros de chiffre d'affaires à la minute. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de retour aux agriculteurs ? Yoplait fait partie de la coopérative Sodial. Mais n'empêche que les retours ne viennent pas consolider dans les faits ce que perçoivent les agriculteurs.
Oui, donc elle a le sentiment que l'argent ne ruisselle pas, en quelque sorte. Mais ça, c'est un ressenti, Anne-Laure. Est-ce que pour autant, c'est une réalité ?
Alors, la réalité pour Sodial, en tout cas, par exemple, c'était au moment de la grave crise laitière qu'ont connu les agriculteurs, des bénéfices à hauteur de 51 millions d'euros, des bénéfices dont 3,5 millions seulement ont été redistribués aux coopérateurs. Ce qui a conduit d'ailleurs à une fronde de la part de certains d'entre eux qui ont fini par quitter la coopérative. Et ce décalage entre les chiffres annoncés et la rétribution finale des agriculteurs, il est aussi pointé par des experts qui ont travaillé sur le sujet, comme Xavier Hollands.
La valeur qui est créée donc dans ces dizaines voire centaines de filiales ne remonte pas forcément vers la coopérative. Il y a parfois une sorte de muraille de Chine qui est établie entre ces filiales et effectivement la coopérative. Et donc il y a de l'argent qui est créé, il y a des bénéfices qui sont créés en dehors de la COP et qui ne remontent pas forcément, qui ne reviennent pas forcément vers les agriculteurs. Et ça, c'est à la fois une source de frustration et d'inquiétude pour les agriculteurs. Ils ont l'impression qu'ils ont contribué à créer des groupes dont une partie de la valeur leur échappe notoirement.
Et ce ras-le-bol de certains agriculteurs, il commence donc à se manifester, mais il est encore assez peu audible.
Oui, parce que beaucoup d'agriculteurs se perçoivent comme partie intégrante de leur coopérative. Si on touche à elles, on touche à eux. Ajoutez à cela le fait qu'ils se sentent extrêmement fragilisés. Il faut rappeler qu'ils ne représentent plus que 3% de la population française. Et vous comprenez pourquoi la loi du silence prévaut, effectivement. Certains ont pu d'ailleurs l'expérimenter récemment. Comme le sénateur Pierre Louault, il a souhaité organiser au Sénat un débat sur la coopération agricole et ça n'a pas été simple.
J'ai bien senti dans les 8 jours qui ont précédé ce débat les pressions sur mes collègues sénateurs qui leur demandaient de ne pas intervenir dans le débat ou de défendre leur coopérative. Les agriculteurs qui veulent s'intéresser de près à la vie de leur coopérative et qui ne sont pas tout à fait dans le discours officiel de la coopérative, sont mal vus, voire marginalisés, voire exclus de leur coopérative. C'était le cas chez Tereos. Donc je crois que tout ceci n'est pas très sain.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, on a vu que certaines coopératives agricoles sont devenues de véritables multinationales, tout en conservant un régime fiscal très avantageux et en échappant à tout contrôle de leurs filiales. Maintenant, on va voir, Anne-Laure Choin, que d'autres travers affectent ces coopératives.
Oui, et l'un de ces travers s'appelle clairement l'optimisation fiscale. Non seulement les coopératives, on l'a dit, ne payent pas d'impôts sur les sociétés, mais elles se débrouillent.
En France.
En France, tout à fait, mais elles se débrouillent parfois pour que leurs filiales à l'étranger aussi payent le moins d'impôts possible, comme le constate l'expert Xavier Hollands.
Des coopératives qui ont développé des filiales de droit privé normalement doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés, sauf qu'en fonction du pays d'établissement de ces filiales, effectivement, c'est la législation locale qui va prévaloir. Et donc, on peut avoir des montages, comme on le constate parfois dans d'autres logiques, comme des logiques bancaires. On va installer des centres de profit dans certains pays pour bénéficier finalement de la législation la plus favorable ou la plus souple. Et là, on se rapproche plutôt de l'optimisation, de pratiques d'optimisation fiscale.
Et on en a des exemples, Anne-Laure ?
Eh bien, Tereos, par exemple, comme Sodial d'ailleurs, possède des filiales au Luxembourg. Sodial qui explique que c'est son partenaire américain, General Mills, qui lui a demandé de faire passer les bénéfices de Yoplait en Amérique du Nord par cette filiale luxembourgeoise.
Ouais, le Luxembourg au taux d'imposition très faible. Mais ce recours aux filiales, il pourrait aussi avoir un revers, Anne-Laure, hein, parce qu'à terme, certaines coopératives pourraient bien être contrôlées par des entreprises étrangères.
Oui, c'est notamment ce que redoute le maire de Cigogné, Vincent Louault, qui a étudié donc de près le cas Tereos.
Si un investisseur arrive, on peut très bien imaginer une absorption par la dette. Hein. Vous arrivez, vous prêtez 500 millions d'euros et au bout de 2 ans, vous demandez le remboursement, il n'est pas possible. Et vous dites, vous me transférez ça en capital et automatiquement le nouvel actionnaire devient propriétaire de la SAS, qui est une filiale de la coopérative. Et ça, je trouve que c'est très dangereux parce que notre outil industriel qui s'est accumulé dans les coopératives grâce notamment aux fonds européens, pourraient être pris par des fonds souverains ou des fonds qui sont complètement extérieurs à l'agriculture. Et là, j'y vois un danger très réel.
Un danger très réel, c'est-à-dire concrètement ?
Eh bien, Tereos, par exemple, avec sa filiale brésilienne, est associé au géant brésilien du BTP, Petrobras, qui a fait face récemment à un énorme scandale de corruption. Sodial, de son côté, est associé avec le géant américain de la céréale, General Mills, et avec le leader chinois de la poudre livres de lait, Sinutra. Cette évolution se heurte donc au principe même de la coopérative agricole qui consistait initialement à valoriser un territoire français et donc à préserver une certaine forme de souveraineté alimentaire.
Oui, l'impression que tout ça donne au final, Anne-Laure, c'est donc que ce modèle qui semblait vertueux a peu dérivé.
Effectivement, oui, les coopératives agricoles sont censées suivre les principes de l'économie sociale et solidaire, mais elles ont, au fil du temps, utilisé tous les outils des multinationales. Pour le sénateur Pierre Louault, l'image des coopératives ne colle plus à la réalité de leur gestion.
Je crois que les coopératives abusent un peu de la discrétion des paysans. Comme on est en coopérative, eh ben on est désintéressé, on travaille pour nos producteurs, et c'est le discours officiel. Et derrière, on utilise des méthodes plutôt capitalistes. On est entré dans ce jeu-là. Il faut se développer, mais moi, je pense qu'il faut retrouver l'essence même des coopératives, sinon il y a un moment on va se planter.
On va se planter, mais rassurez-moi quand même, Anne-Laure, toutes les coopératives ne fonctionnent pas comme ça, non ?
Non, là on a parlé ici des grosses, voire des très grosses coopératives agricoles, celles qui concentrent la plus grosse partie du chiffre d'affaires du secteur, mais il en existe une multitude d'autres, dont la taille est plutôt celle de PME, voire de TPE, et dont le fonctionnement, lui, le plus souvent, est transparent.
Bon, vous nous rassurez un peu quand même, et on ne jettera pas donc le bébé avec l'eau du bain. Merci Anne-Laure Choin donc, pour cette enquête sur un milieu dont on parle assez peu, finalement. Enquête très éclairante que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter, ou sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France. Et on va changer maintenant complètement d'univers.
France Inter, secret d'info.
Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques Monin.
Alors vous êtes, on le rappelle, la médiatrice de Radio France. On vous reçoit à intervalles réguliers pour que nous puissions répondre aux questions que se posent nos auditeurs sur nos enquêtes. Alors ben allons-y, sur quoi voulez-vous nous interroger aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on revient sur votre enquête sur les vrais chiffres du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous avez retracé l'histoire de cette levée de fonds sans précédent et des auditeurs s'étonnent. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour traiter ce sujet ? Nous demande Olivier. Et plus globalement, pourquoi avoir fait ce sujet sur cette levée de fonds hors normes ?
Alors, faut répondre à la première question pour pouvoir répondre en fait à la deuxième. Pourquoi a-t-on attendu 2 ans ? Alors, le mieux, c'est de le demander à Sylvain Tronchet qui avait réalisé cette enquête. Sylvain, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
Ouais, parce que c'est très long, en fait, de récupérer les documents et c'est très français comme problème. Emmanuel Macron est élu en mai 2017. On a eu accès à ses comptes de campagne qu'en avril 2018, c'est-à-dire presque un an après, et encore. Quand on a eu ces comptes de campagne, on n'avait pas les fichiers détaillés de dons, on n'avait pas non plus les comptes du parti, on n'avait pas non plus les fichiers de dons faits au parti et on n'avait pas non plus les fichiers des autres candidats et éventuellement on aurait bien aimé en avoir sur des élections précédentes. Bref, ça prend énormément de temps en fait pour agréger toutes ces données, ces documents qui sont publics, au fond, qui disent énormément de choses du fonctionnement de la démocratie, eh bien, en France, et c'est un problème français, ils sont extrêmement longs, extrêmement fastidieux à avoir. Il faut savoir que si on était en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, je parle même pas des démocraties nordiques, on aurait en temps réel, quasiment, hein, tous ces chiffres. C'est-à-dire que pendant le déroulement de la campagne, on pourrait déjà commencer à parler de ces choses-là. En France, il faut attendre 2 ans. Alors après, on a 2 choix, quoi. C'est où on se dit c'est beaucoup trop tard et auquel cas on ne le traite pas. Ou alors on se dit c'est un sujet majeur qui dit des choses du fonctionnement de la démocratie et on décide de le faire quand même.
Et quand je disais, j'ajoute Emmanuel, parce que la deuxième question j'y arrive, quand je disais qu'il faut répondre à la première, c'est que si ce qu'on avait trouvé avait correspondu tout à fait au discours qui était véhiculé pendant la campagne, je pense qu'on n'aurait pas fait de sujet, on n'aurait pas fait d'enquête. L'investigation, c'est aussi, on dit, déjouer les stratégies de communication. En l'occurrence, ce qu'on a trouvé ne correspondait pas à ce qui nous avait été dit. C'est-à-dire que, si on se souvient, on nous racontait que la campagne d'Emmanuel Macron, la campagne de levée de fonds, faisait l'objet d'un engouement populaire et il y avait une multitude de petits dons qui venaient alimenter les comptes de campagne. En fait, on se rend compte, quand on regarde dans le détail, que c'est pas tout à fait ça. Toute la première partie de la campagne fonctionne sur des gros dons. Et on en a fait la démonstration, les gros dons sont ciblés quasi exclusivement au démarrage pour pouvoir amorcer cette campagne. Les 100 000 petits dons qui arrivent, ils arrivent ensuite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous a expliqué aussi que les dons étaient plafonnés, donc que les dons étaient forcément limités à 7 500 euros. Ben là aussi, quand on regarde dans le détail le travail qu'a fait Sylvain, on se rend compte que on peut donner en 2016, mais on peut donner en 2017. On peut donner à la campagne, mais on peut donner également aux candidats. On peut donner dans un couple, l'un et l'autre. Et finalement, on a identifié, et ils sont plusieurs, des donateurs qui ont donné jusqu'à 40 000 euros. Donc, il nous semblait intéressant aussi de montrer quelle était la réalité des faits à l'aune de ce qui nous avait été expliqué au moment de la campagne, même si on doit pour ça attendre 2 ans.
Autre reproche, le calendrier choisi pour la diffusion, cela surprend Martine. Elle nous écrit « Votre enquête, elle sort 3 semaines avant les européennes. Ben voyons, le hasard, bien sûr, c'est pitoyable. » Alors que répondez-vous à cette auditrice, Jacques Monin ?
Vous êtes méchante, Martine. Pitoyable, non, c'est pas des mots qu'il faut employer. Un peu de bienveillance. Non, c'est simplement que l'anniversaire des 2 ans d'Emmanuel Macron, l'anniversaire par nature, c'est aussi une date où on revisite les événements. Donc là, c'était le moment où on disposait enfin d'éléments. Et là, on l'a expliqué, donc je vais pas revenir dessus. Et en même temps, au moment où effectivement, on fait le bilan quelque part des 2 ans d'Emmanuel Macron, ça nous semblait être le meilleur moment pour le faire.
Je vais faire juste une petite remarque. Si on l'avait sorti quelques semaines avant, par exemple, on aurait été au plus fort de la crise des Gilets jaunes, on aurait pu considérer aussi que c'était une mauvaise période pour l'exécutif. Il n'y a jamais de très bonne période pour sortir ce genre d'enquête pour ceux qu'elle concerne directement.
Tout autre sujet à présent, Doctolib, success story ou danger pour le monde de la santé. Plusieurs auditeurs ne comprennent pas que vous critiquiez cette réussite alors qu'ils estiment au contraire que c'est une initiative qui mérite d'être saluée. Quel éclairage pouvez-vous leur apporter pour expliquer ce choix, Jacques Monin ?
Alors, on a insisté sur le côté réussite de Doctolib. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et toute la première partie de l'enquête, d'ailleurs, était consacrée à ça. Évidemment, Doctolib, c'est une formidable réussite française d'une start-up qui arrive à se hisser au rang d'un petit GAFA, quelque part, à la française. Mais comme tout GAFA, il pose des questions. Et des questions qui concernent des enjeux de société. Donc, à ce titre-là, il mérite d'être interpellé aussi. On constate que Doctolib, aujourd'hui, est en train de se positionner dans une situation qui est dominante. Qu'est-ce qui nous dit que dans quelques années, Doctolib n'aura pas la mainmise quelque part sur les médecins, c'est-à-dire le secteur privé, mais aussi sur une partie des hôpitaux, de la gestion du calendrier des hôpitaux, y compris de certaines données médicales des hôpitaux. On voit très bien comment fonctionnent les GAFA. Enfin, pendant de nombreuses années, les GAFA effectivement fonctionnent sur un mode soit de gratuité, soit même parfois sans dette, creusent des déficits pour ensuite devenir dominants. Et on se rend compte que ces GAFA se permettent de faire la pluie et le beau temps sur le marché. Donc, évidemment, on fait aucun procès à Doctolib. Mais on dit simplement, le procès, c'est pas Doctolib, c'est sa situation dans l'ensemble d'un paysage, d'un acteur privé en position de pouvoir contrôler, finalement, des acteurs publics demain. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle des données. Doctolib possède un certain nombre de données. Ces données-là sont couvertes, c'est vrai, en France, par un règlement européen qui s'appelle donc le RGPD. Aujourd'hui, est effectivement une forme de bouclier. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si demain Doctolib était racheté par des Américains, par exemple ? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, qui s'oppose en fait au RGPD, c'est-à-dire que le Cloud Act permet à l'État américain d'imposer aux entreprises qu'elles divulguent les données qu'elles détiennent, y compris dans des serveurs à l'étranger. Donc évidemment, le patron, qui est un homme brillant de Doctolib aujourd'hui, dit « jamais je ne vendrai ma société ». Mais qui peut dire de quoi demain sera fait ? Et si on n'alerte pas et si on ne pose pas les questions, demain, au contraire, on nous le reprocherait. On en reste là, pas d'autres
questions aujourd'hui.
Pas d'autres critiques. Alors je précise qu'on peut vous écrire à mediatrice@radiofrance.com, mais surtout restez avec nous dans quelques instants. On va parler d'une guerre fratricide qui se déroule à Lyon. Friday late night, there it is. The soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one losing my arms, just remember not to bother.
if you catch me with another one that's been around, whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway, or can we call it quits? And is this what I need to take away? This checkmate in my mind. So if you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. Me with another one that's been around, whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust.
Girl, don't look back at the past when you're feeling low, 'cause I might be up to something that you ought to know. Girl, it's not our time or place anymore. You just should know.
Une ligne de basse syncopée s'est enlevée, sympa, c'était « I'm never gonna let you down again »,« Je ne te laisserai jamais plus tomber », extrait du dernier album du groupe belge Balthazar.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant en duplex de Lyon Nicolas Barrican du site d'investigation régionale Médiacité, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors vous publiez une enquête sur les coulisses d'une guerre fratricide qui se déroule chez vous. C'est celle qui oppose David Kimmelfeld, qui est à la tête de la métropole de Lyon, à son ancien mentor Gérard Collomb, qui est rentré donc après avoir quitté le ministère de l'Intérieur. Vous évoquez une situation comparable à celle de Brutus contre César.
Oui, l'analogie est de mise parce que Gérard Collomb avait annoncé qu'il souhaitait continuer sa carrière politique après 2020, après les prochaines élections locales en 2020. Et donc, il avait annoncé qu'il choisirait la métropole et qu'il laisserait la place à l'hôtel de ville à David Kimmelfeld.
Donc, il y avait une espèce de Yalta entre les deux.
Exactement, il y avait un accord initial qui date de 2016, qui officialisait en fait une situation qui était acquise même avant cette date-là. Sauf qu'Emmanuel Macron, à la carrière politique fulgurante qu'on connaît et que Gérard Collomb étant un de ses premiers soutiens se retrouve au gouvernement et donc il se retrouve obligé de céder ses deux postes exécutifs locaux et il installe David Kimmelfeld à la tête du Grand Lyon, à la tête de la métropole de Lyon et laisse l'hôtel de ville à son premier adjoint Georges Képénékian.
Et David Kimmelfeld, et c'est là qu'est la trahison on peut dire, a l'intention de conserver son poste.
Tout à fait, il y prend goût et puis il contraste beaucoup avec son prédécesseur. Il est beaucoup plus collégial, il implique les élus, là où Gérard Collomb avait tendance à avoir des pratiques un peu plus autocrates. Donc il se fait apprécier et puis autour de lui, on commence à lui dire que finalement il est pas mal dans le poste.
D'autant plus, Nicolas Barrican, que vous soulignez qu'il a fait un gros sacrifice financier en prenant les rênes de la métropole puisqu'il a quitté la tête d'une entreprise de transport maritime et aérien. Et ça a compté aussi dans sa décision.
Oui, alors il a un profil atypique David Kimmelfeld parce que il a beau être élu depuis trois mandats maintenant, depuis 2001, il a toujours conservé une autre activité, une activité professionnelle à côté. C'est quelqu'un qui n'a jamais passé le bac, qui a été infirmier, puis ensuite qui est devenu entrepreneur et qui a cofondé une entreprise de transport maritime aérien qui marche très bien. Et effectivement, quelques mois après son élection à la tête du Grand Lyon, il démissionne et il revend les parts de l'entreprise qu'il avait cofondée en 1990. Et effectivement, ça représente un certain certain manque à gagner puisque d'après sa déclaration d'intérêt, il gagnait en moyenne 55 000 euros net par an auxquels s'ajoutaient certaines années des gratifications en tant que commissionnaire de transport qui pouvaient monter jusqu'à une centaine de milliers d'euros.
Donc d'un côté, on apprécie sa manière de gérer. De l'autre côté, il a fait un sacrifice. Il n'a pas envie de laisser tomber non plus quelque chose qui lui a coûté. Et vous dites que la décision finalement de trahir Gérard Collomb aurait été prise assez tôt, hein, à l'été 2018. Donc avant qu'il ne revienne, à ce moment-là, on ne savait pas qu'il allait reprendre la mairie de Lyon.
Gérard Collomb s'était jamais caché de son envie de revenir tôt ou tard à Lyon. Ce qui était une surprise, c'était plutôt la date. Et puis cette démission, je sais pas si vous vous en souvenez, si les auditeurs s'en souviennent, mais c'était un peu rocambolesque.
Il annonce
dans une interview, etc. Voilà, c'était à la rentrée de 2018, septembre-octobre 2018. Et il force la main finalement à Emmanuel Macron pour quitter le gouvernement. Donc ça, effectivement, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe à Lyon à cette période-là? David Kimmelfeld a déjà pris effectivement sa décision de se représenter en 2020 à la tête du Grand Lyon. Il y a tout un tas d'indices que nous racontons dans l'enquête et qui confirment cela. Sauf que bien sûr, le retour précipité de Gérard Collomb fait pas forcément ses affaires. Ça lui laisse un petit peu moins de temps pour installer sa candidature comme une évidence.
Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, il agglomère autour de lui un certain nombre de soutiens. David Kimmelfeld, vous évoquez des députés de Lyon qui se sont rangés derrière lui. Bref, on a l'impression que derrière Gérard Collomb, ça se délite.
Oui, alors effectivement, la maison Collomb est en train de s'effriter. Il y a beaucoup d'élus qui ont fait carrière grâce à Gérard Collomb qui rejoignent aujourd'hui David Kimmelfeld. Pour autant, c'est pas non plus la fin de la carrière de Gérard Collomb. J'allais dire que le maire de Lyon résiste. Il a annoncé qu'il lui aussi se présenterait à la tête du Grand Lyon. Il a l'air déterminé. Il organise aussi sa pré-campagne, il a lancé une association censée fédérer autour de lui et puis attirer aussi des nouveaux visages.
Et puis il rend les coups.
Pour renouveler un peu. Et il rend les coups.
Quand il parle de David Kimmelfeld, il dit « j'ai eu beaucoup de mal à le faire élire, c'est un homme gentil mais incapable de trancher ».
Exactement, David Kimmelfeld qui était le gendre parfait au sein du système Collomb, d'un seul coup devient le traître qu'il faut abattre et Gérard Collomb et l'entourage de Gérard Collomb est assez fébrile, l'observe j'allais dire avec beaucoup d'attention et guette le moindre faux pas de David Kimmelfeld.
Et donc il y a une double campagne qui se déroule en ce moment chez vous?
Oui, oui, ça fait rage. Je vous disais, à la fois, ça se passe à travers la communication. Les deux occupent le terrain énormément. Ça se passe aussi en coulisses, parce qu'il y a une réorganisation des hommes et des femmes de l'ombre, ces collaborateurs qui sacrifient souvent leur jour et leur nuit pour des hommes politiques, qui eux aussi prennent position pour un clan ou pour un autre, alors même que tout le monde travaillait ensemble auparavant. Donc voilà, pour l'instant, la campagne se joue à ce niveau-là.
Ouais. Avec la question subsidiaire qui est que fera En Marche? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que En Marche n'investisse pas un de ses membres initiaux, un de ses membres fondateurs qui était Gérard Collomb?
Alors, c'est la grande interrogation du moment. Elle devrait être tranchée, d'après nos infos, d'ici à fin juin. Il y aura une première réunion d'un comité politique d'ici au 15 juin.
Parce qu'il est envisageable que David Kimmelfeld soit investi par En Marche, c'est envisageable?
Tout à fait. En tout cas, lui réclame l'investiture En Marche. C'est un ancien socialiste. Il était secrétaire fédéral, donc le patron dans le département du Parti Socialiste. Et il a rejoint, comme bon nombre d'élus lyonnais, La République En Marche, dans le sillage de Gérard Collomb. On connaît les relations aujourd'hui beaucoup moins fraternelles entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Lui, David Kimmelfeld, continue à jouer, j'allais dire, la carte légitimiste, la carte de La République En Marche, et il annonce qu'il demande l'investiture d'En Marche. De son côté, Gérard Collomb, lui, entretient le flou autour de cette question-là.
Mais finalement, il serait pas mécontent de ne pas l'avoir, non?
Mais voilà, peut-être. C'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément un mauvais calcul pour Gérard Collomb de ne pas réclamer la carte En Marche, puisque le contexte national...
D'être le candidat anti-système, en fait.
Exactement, c'est ça. Le contexte national ne sera peut-être pas favorable au pouvoir national. Et puis, par ailleurs, c'est une habitude aussi de la part de Gérard Collomb de faire campagne sur son nom, y compris quand il était au Parti Socialiste. Il mettait un petit peu l'étiquette socialiste dans sa poche et sur les affiches, il était marqué en plus gros Collomb que socialiste.
Bon, bah ça promet, on va suivre ça. Merci en tout cas pour ces explications, Nicolas Barrican. Alors, je rappelle que votre enquête sur la guerre Kimmelfeld-Collomb est donc à lire sur le site de Mediacité, site payant, hein, je le précise. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Dibert et à la technique, il y avait Pierre-Yves Derolin, Mathias Alléon, Rémi Sistiaga et Claire Vuillot dans notre bureau de Lyon. Dans quelques instants, CO2 Mon Amour, Denis Chessou va vous parler de l'impact de l'aviation sur le dérèglement climatique. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.